À Matadi, sur Fondu. Dernièrement, dans la chronique Ben Valencia, nous avons constaté que les groupes qui existent ou qui se créent dans des conditions de vie difficiles ont tendance à se diaboliser et à faire croire que c'est l'autre qui est à la base des malheurs que connaît la société. Aujourd'hui, dans cette chronique, dans cette cinquième chronique de la BLNC, il s'agit de démontrer qu'après la diabolisation à travers des idéologies destructrices des uns et des autres, on estime que la recherche des solutions à ces problèmes passe par l'élimination de l'autre. Dans un reportage réalisé dans le Bas-Congo, en rapport avec le soulèvement des adeptes de la secte Boudou Dien-Congo dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2007, le peuple Congo proteste contre la présence massive des personnes non originaires du Bas-Congo dans les postes de commande de la province. Son souhait serait qu'on donne aux autochtones la possibilité de diriger leur province et que tous les étrangers partent de la province. Par étrangers, il faut entendre les peuples des autres provinces de la RDC. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce reportage que nous propose justement Dani Kindanzita.
Le peuple qui vit dans des conditions difficiles est souvent prêt à adopter des solutions de facilité simplistes qui passent souvent par l'élimination de celui que l'on croit être à la base de son malheur. Mercredi 31 janvier 2007 à 19h heure de Matadi, le peuple Congo entend les coups de fusil qui crépitent dans le quartier Bima, l'un des quartiers de la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. Pour quelle raison?
Avant l'événement, nous avons été saisis par les éléments des états qui distribuaient des papiers pour prévenir une marche éventuelle qui allait se faire disons, le jour suivant. Bon, malheureusement, que ces papiers ont été distribués, parce que ce sont des papiers qui étaient distribués à même, disons, par des personnes bien connues. Donc on ne peut pas appeler ça traque, mais ce sont des gens qui passaient d'un bureau à l'autre pour donner des informations à la population. Mais il se fait malheureusement que l'événement du 31 a précipité, disons, la marche. Donc la marche n'a plus eu lieu parce que les fidèles de BDK voulaient revendiquer sur la tricherie éventuelle qui a eu pour les élections de gouverneur de province. Alors ils voulaient que les droits ou la démocratie soient établis en faveur de challengers. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire cette volonté de pouvoir faire la marche. C'est question de faire la volonté du peuple. Hein, la volonté du peuple, c'est quoi? Hein, ce que des forces très importantes là, comme les postes de direction, que les originaires puissent les occuper et faire une bonne chose. Parce que même sous d'autres cieux, on comprend que ce sont ceux-là, hein, les autochtones, qui sont au pouvoir. Donc ici, il n'est pas question de parler ou de voir le chef de la population de l'Incon, de parler de l'exilophobie ou quoi, non. Mais la volonté, hein, de la population, c'est qu'il soit porté à la tête des institutions ou de postes stratégiques de la province, et non pas voir des étrangers être à la tête. C'est ça l'air idéal.
Bisho wa tadie tuza rabato mboka te. Omoni, biloko oyo tsoto tali na commerce, oyo mingi esame matadi oyo. Mingi matadie atangu sara biloko te na nzela. Vrai matadie atangu sara biloko na nzela te. Bisho mingi mingi ba kinwa, ba wauti kimba, ya ba komisa misa biloko, ba komisa ba tiraj, ba komi na ba kamion, sito, oyo mozo wa vatiko kene place inter kinwa zawa, na ote, fecha kene kesho spona kene, bisho matadie wa kamoni za agate. Alors, il y a un autre monde à Mimba qui noie, et puis au moins il y a un gay, il m'a taillé, il y a une bombe, il m'a dit, ma position a été. Mais il y a un qui noie, sauf qu'il a joué, et tant que Allah qui s'est fait gagner à jouer. Pas un mien, il y a un gras. Même au sein de ce qui noie, il y a un logé, il y a un joueur qui est le même, il y a un joueur qui s'est fait. kufanya ako hivi sote shuwa kufindi nana yambi mingi awa ulojena nako kufani bie kutu kibiba ajui mwa bani kidona nako ajihibi nene nako shuwa kwenye ako loba pete alo yamini bise tumono kapenda mabido.
Peut-on vraiment croire que les malheurs des autres viennent d'ailleurs, alors qu'actuellement, sous d'autres cieux, les hommes se soudent et s'unissent pour faire face à des problèmes communs? Que propose le peuple Congo comme solution à ces problèmes?
Au Bas-Congo, on a toujours souhaité que les compétences locales soient mises à profit. Comment voulez-vous toujours importer la main d'œuvre de l'extérieur alors que localement ici il y en a des compétences? C'est ça un peu la chose. Donc, qu'il soit Matadi, c'est vrai qu'il peut être libre Congo, mais il est plus souhaitable que les locaux puissent être mis à profit.
Tu as la poste la bango bayaka bakina ba sinon on a un peu la zali comment ça s'appelle là où tu as qui mais elle a sa force ça va bien de quoi elle est très bien vous avez compris.
Il n'est pas nécessaire de croire que la violence peut apporter la paix, car la violence n'engendre que la violence. Éliminer l'autre, c'est continuer à amplifier le mal, c'est créer un cycle infernal de la violence.
Merci à Dany Kindanzita qui nous a proposé ce reportage depuis le Bas-Congo. Un reportage qui nous a justement retracé les faits. Il est parti d'un exemple à travers l'aspect bout du Bas-Congo, dans le Bas-Congo. Nous faisons le point avec le professeur Okomba, qui est docteur en communication à l'Institut facultaire des sciences de la communication Alphasic. Il est notre invité aujourd'hui. Professeur Okomba, vous avez suivi le reportage proposé par Dany Kindanzita. Avant toute chose, votre réaction?
Eh bien, ma réaction est la suivante, que le principal opérateur de la dévaluation dans toutes les sociétés, c'est le préjugé. Le préjugé. Et qu'est-ce que c'est qu'un préjugé? Un préjugé, c'est une opinion, c'est une croyance qui est adoptée d'avance et sans examen. Quand on écoute les propos des personnes qui ont été interviewées dans ce reportage, on se rend immédiatement compte qu'il existe un certain nombre de préjugés qui fonctionnent sous le quinoa. Le quinoa est orgueilleux, le quinoa c'est un voleur, le quinoa c'est un vantard, et ainsi de suite. Et ce sont là des préjugés qui dévaluent. En fait, ce sont des cas concrets de dévaluation. C'est la raison pour laquelle je dis que le principal opérateur de la dévaluation dans toutes les sociétés, ce sont les préjugés. Il existe toutes sortes de préjugés. Il y a des préjugés raciaux, des préjugés ethniques, des préjugés nationaux. Et là, nous vivons un cas des préjugés des groupes, des préjugés envers les Chinois.
Mmh. Aujourd'hui, le peuple Congo demande à ce que les compétences locales soient mises à profit. Il ne faut plus importer les compétences ailleurs.
Oui, là aussi, nous sommes en face d'une idéologie en fait de séparation. Parce que, quels sont les concepts qu'il utilise en fait? C'est qu'il y a d'un côté les originaires, et puis de l'autre côté les étrangers. Et on dirait que ces étrangers ne sont pas des Congolais, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de nos frontières. Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette idéologie, parce que le pays est un, le peuple est un, tous les Congolais doivent se sentir chez eux. Et à partir du moment où on affirme que les étrangers ne doivent pas venir chez nous, ce type de pensée, ce type d'idéologie est contre-productif pour la province du Bas-Congo. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les investisseurs vont hésiter, vont aller investir au Bas-Congo, de peur d'être traités d'étrangers. Il y a certainement des Chinois qui ont de l'argent, qui ont envie d'aller investir dans cette province. Mais à partir du moment où on les traite des projets, ils vont hésiter. Et donc, c'est un mot de dépenser qui est globalement contre-productif pour cette province.
Parlons de dévaluation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dévaluation? Vous avez cité notamment le fait que, bon, un étranger ne peut pas venir chez eux, mais par étranger, on entend également les Congolais des autres provinces. Donc, hormis cet exemple, est-ce qu'il y a d'autres types d'exemples que vous pouvez nous donner?
Bon, les cas de dévaluation, il y en a beaucoup. Personnellement, je considère qu'il existe deux types de dévaluation. Des dévaluations symboliques. Ce sont des dévaluations qui fonctionnent au niveau des préjugés. Et il existe toutes sortes de préjugés dans notre pays, par exemple sur des ethnies. On vous dira que les membres de telle ethnie sont des voleurs. Les membres de telle ethnie ne sont pas des travailleurs, ils sont des paresseux. Les membres de telle ethnie sont hypocrites. Ce sont des préjugés que nous entendons tout le temps. Et ce sont des cas de dévaluation. Et là, je parle de la dévaluation symbolique. Elle fonctionne tout le temps dans nos propos. On n'y fait pas souvent attention, mais on répète ce genre de dévaluation à longueur de journée. Mais à côté de ces dévaluations symboliques, il existe ce que j'appelle une dévaluation opérationnelle, celle qui se concrétise à travers des actes. Il y a dévaluation opérationnelle quand on refuse par exemple à quelqu'un un poste sous prétexte qu'il appartient à tel groupe, il appartient à telle ethnie, c'est un étranger, c'est une dévaluation opérationnelle qui est très très grave, qui a des conséquences néfastes pour l'ensemble de la société.
Aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe au Bas-Congo, on peut parler d'une idéologie qui est un peu destructive.
Oui, commençons peut-être par essayer de définir ce concept d'idéologie. Qu'est-ce qu'on entend par idéologie? C'est un concept qui a été défini de diverses manières, mais pour moi, une idéologie, c'est en somme un système de signification et de pratiques qui exprime les valeurs d'un groupe social. C'est d'un côté, vous avez des significations et puis des pratiques, mais qu'il faut nécessairement relier à un groupe social. Une idéologie de destruction, c'est pratiquement un système de signification et des pratiques orientées vers la destruction des autres, vers l'anéantissement des autres, vers le refus des autres. Et quand on dit que les Kinos sont des étrangers, on n'accepte pas que les étrangers occupent des postes ici, pour moi, c'est vraiment une idéologie de destruction. C'est une idéologie qui peut déboucher même sous la violence, parce que là, on désigne tout de suite un bouc émissaire. Ce sont les étrangers qui sont à l'origine de nos problèmes, de nos malheurs, de nos épreuves, de nos échecs. Et par conséquent, il faut supprimer cette source de nos échecs. Il faut l'éliminer, il faut les chasser. Et là, on entre dans le cycle des violences.
Tout à l'heure, on a suivi à travers le reportage proposé par notre confrère. Ceux qui ont parlé ont même précisé qu'on ne parle pas de xénophobie, mais on demande juste que les autochtones occupent des postes de responsabilité. Ils ont constaté que le Kinois est de plus en plus présent et que la plupart des Kinois, ont-ils dit, sont ingrats. Alors, aujourd'hui, quel est le lien entre dévaluation et méfiance entre les groupes?
Il existe une relation de cause à effet, à mon avis, entre la dévaluation et la méfiance. Parce que la dévaluation a généralement pour objectif de présenter l'autre comme une menace. Le climat est présenté comme une menace dans les propos des personnes que nous venons d'entendre. C'est un voleur. De temps en temps, il vole. Et quand il part, il ne dit pas qu'il part. Il vient occuper tous les postes. C'est-à-dire qu'il nous empêche d'accéder à un certain nombre de privilèges, à un certain nombre de statuts. Il nous empêche d'accéder à un certain nombre d'éléments économiques et financiers. Et donc, cette idéologie, cette dévaluation qui présente l'autre comme une menace, provoque nécessairement de la méfiance. Parce qu'on se méfie naturellement de ce qui vous menace. C'est ça le lien. Tout ce qui dévalue provoque de la méfiance parce que ce qu'on dévalue, c'est généralement une menace.
Mais comment expliquer que bon nombre de gens aujourd'hui adhèrent à cela? La plupart des gens se méfient de l'autre, des étrangers. Et par étrangers, je précise encore que c'est tous les Congolais qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas autochtones, qui ne vivent pas aujourd'hui dans le Bas-Congo, qui ne sont pas nés là-bas. Alors pourquoi les membres de groupes adhèrent-ils tous à une telle idéologie? Parce qu'il y a quand même des gens qui pensent autrement, il y a quand même des intellectuels qui pensent autrement.
Je discerne deux raisons à cette adhésion. D'abord, les membres de groupes adhèrent à ce genre d'idéologie parce qu'elle est favorable à leurs intérêts. Quand on préconise la chasse aux Chinois, c'est juste pour les remplacer dans les postes. C'est pour accéder à un certain nombre d'intérêts. Mais il existe une deuxième raison. En général, les idéologies apportent des réponses à un certain nombre de préoccupations, c'est ça. Toute idéologie se présente un peu comme un système de connaissances. L'idéologie permet de répondre à des questions ou à des préoccupations. Je donne un exemple. L'idéologie désigne explicitement la cause du mal. C'est l'autre, c'est tel groupe, c'est tel individu. Et donc là, l'idéologie fonctionne comme un système de connaissances qui vous permet de répondre à un certain nombre de questions. Mais également, l'idéologie, c'est un ensemble des pratiques. L'idéologie donne des orientations d'action. Mais puisque l'autre constitue une menace pour ses intérêts, il faut nécessairement l'anéantir. Et là, il y a une orientation d'action qui est tout est tracée. Et c'est là le double intérêt de l'idéologie. L'idéologie favorise un certain nombre d'intérêts, les intérêts de ceux qui défendent ces idéologies, mais en même temps, les idéologies répondent à des questions et indiquent de quelle manière il faut agir pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté.
Aujourd'hui, puisque le peuple congo se sent menacé, le quinoa est mauvais, les autres sont mauvais, venant d'ailleurs, les étrangers, des autres provinces, ils nous prennent tout, alors il faut les détruire. C'est ainsi que ça fonctionne aujourd'hui.
Absolument, absolument, c'est ça. L'idéologie dit simplement que voilà, le bouc émissaire, le responsable de nos malheurs, de nos problèmes, c'est tel groupe, c'est tel individu. Et donc, pour éradiquer, pour supprimer la source des problèmes, il faut nécessairement l'éliminer, il faut le chasser. C'est comme ça que fonctionnent les idéologies sur un schéma vraiment très très simple, je dirais même très simpliste, parce qu'en réalité, ce genre d'idéologie ne résolve pas le problème.
Non.
Au contraire,
oui.
Ce type d'idéologie ne fait que compliquer le problème.
On peut croire que c'est mauvais de raisonner ainsi.
Absolument, c'est mauvais parce que l'idéologie fonctionne généralement sur la base de la généralisation abusive. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu affaire à un quinois qui a volé un petit objet et puis on généralise sur l'ensemble des quinois. Il y a eu une petite bagarre avec un quinois et à partir de cette petite bagarre, on généralise sur l'ensemble de la population. Et donc l'idéologie repose sur des jugements qui ne sont pas fondés, sur des opinions sans preuve en réalité.
Mm-hmm. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à réagir hein, au 081 070 2050. Envoyez-nous des SMS à travers vos questions, vos propositions pour aller de l'avant. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, écrivez-nous action@radiocapi.net. Professeur Okomba, on va évoluer sur la question. Pourquoi le fait de considérer un groupe comme inférieur est mauvais pour les rapports entre les groupes?
Bon, c'est mauvais pourquoi? Parce que le fait de considérer un groupe comme inférieur entraîne un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est l'exclusion, c'est la discrimination, c'est la ségrégation. Et ensuite, cette discrimination a pour finalement conséquence d'inférioriser l'autre, c'est-à-dire d'entretenir un certain nombre de préjugés. Et finalement, l'autre qui se sent exclu et qui se sent discriminé, il s'organise à son tour pour réagir. Donc, il va nécessairement répondre à la violence de l'exclusion, de la discrimination, par une autre violence pour faire reconnaître son statut dans la société.
Mmh.
Donc, finalement, le fait de considérer les autres comme étant des entités, des éléments inférieurs, entraîne nécessairement la violence. D'abord, c'est une violence symbolique, c'est une violence opérationnelle, à laquelle les autres vont répondre par une violence pour se faire reconnaître dans la société.
Ce qui n'est pas bon.
Ce qui n'est pas bon, ce qui nuit au développement de la société, ce qui déstabilise les groupes.
Mais alors que faire? Que faire lorsqu'on entend des leaders, parce qu'il y a des leaders ou des gens qui parlent négativement des autres, ceux-là sont des voleurs, ceux-là viennent prendre nos places, ceux-là ont tous les postes de responsabilité. Alors que faire lorsqu'on se retrouve en face des gens qui parlent des autres négativement et les accusent de tous leurs problèmes?
Bon, la question que doit-on faire sous-entend qu'il faut agir, qu'il y a des actions à mener. Alors, moi je retiens deux types d'actions. Il y a des actions au niveau individuel et puis des actions au niveau collectif. Au niveau individuel, j'estime qu'il ne faut pas être passif vis-à-vis des gens qui tiennent ce genre de discours. Il faut nécessairement réagir, il faut contredire les leaders et les gens qui parlent négativement des autres. il faut tout faire pour démonter leurs pseudo-arguments, parce qu'en général, ce sont des discours qui sont fondés sur des arguments fallacieux. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, c'est d'intervenir.
Mais c'est un groupe qui dit la même chose. Comment est-ce que vous, en tant que petit groupe, si je veux le dire ainsi, ou une personne, peut-elle réagir ou protester?
Oui, mais généralement, en fait, on a peur de prendre la parole. Bon, moi, je crois qu'il faut développer la culture du non, la culture du refus d'un certain nombre de choses.
Il faut oser.
Et il faut oser, il faut prendre la parole, il faut protester, il faut argumenter pour démontrer que ces gens d'idéologie ne sont pas fondés. Ça, c'est sur le plan individuel. Mais sur le plan collectif, on peut imaginer un certain nombre de mesures. Par exemple, j'estime qu'il faut mettre en contact les membres des groupes qui entretiennent des préjugés réciproques. Il faut favoriser des expériences directes. Amener les gens à se connaître. Il faut favoriser l'intégration des enfants dans les écoles. Il faut promouvoir des phénomènes tels que les intermariages pour réduire la distance sociale entre les
deux provinces.
Entre deux provinces, par exemple. Donc, les intermariages, l'intégration scolaire des enfants, les expériences communes. Sur le plan scientifique, il faut promouvoir des études sur les préjugés et leurs inconvénients. Mais il y a également des actions médiatiques qu'il faut mener dans les médias nationaux, dans les médias régionaux et même dans les médias locaux.
Au combat, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui réagissent. On va lire rapidement les réactions des auditeurs. Il y a notamment Carlos Pilisala qui nous dit « L'important est de savoir que l'autre n'est pas toujours une menace, mais aussi une chance. » Autre réaction depuis Louosi, d'un auditeur qui dit « Les noms originaires qui ont été affectés à Louosi calomnie toujours les autochtones. » Nous avons également la réaction de Basila des 12 Kisangani. Donc Kisangani dit « Est-ce qu'un Congolais de notre coin du pays est moins Congolais au Bas-Congo ?» La question s'adresse à vous tous qui nous suivent à travers le pays. Nous avons encore des réactions, des témoignages des gens qui nous suivent. On vous laisse suivre justement la réaction d'un auditeur.
Raïté la Iberre. Abeng bino na Lubumbashi. Bon, na lobi bato mudu ya Kongole bazolo ba wana kete, il faut bato na bango kaka batia bango na musala batika makambo ya bato mususu bauta ba kote mususu po ba ya usale pa na bango. Oh, na wana eza esprit ya division. Bazo kabula mboka tundeni, 3e République tobwe makambo ya division na banini. Na siri ya moto akoza na Equateur, moto ya Equateur me, ake na kutravaye na katana. Sete posibe pe uyo kape materiale mokote. Moto ke akatana kolo mwa katana ake na region ya Bakongo kuna ake kutravaye. Po tuje mwa partu, ana Lubumbashi tuza abato Equateur, Bele, tuza abato abandu, bazo sa msa, au, uzo kape ata reklamasyon mokote me, o nde bango bazo luba wana, eza vrema yangote, bata la mexika wana bien.
Voilà, donc il faut bien penser avant de réagir. Hein. C'est la plupart de ce que nous entendons à travers les réactions que nous recevons. Alors, les dirigeants et adeptes de Bouddha Congo doivent savoir que un mouvement politico-militaire est contraire à la loi. Ils doivent se constituer en un parti politique pour canaliser leurs revendications. Le sang congolais a trop coulé. En plus, notre Congo est un et indivisible. C'est Bahati de Bounia qui le dit. Vous êtes d'accord avec son point de vue?
Je suis tout à fait d'accord et j'estime que la véritable richesse dans un pays, dans une province, dans un groupe, c'est la diversité. L'autre a dit, celui qui vient d'ailleurs, l'autre, c'est vraiment une chance. Sous le plan philosophique, on a toujours affirmé que c'est la diversité qui constitue la richesse. Le monolithisme, c'est la pauvreté. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble avec les autres.
À respecter l'autre aussi. Hein.
À respecter l'autre.
On va donc conclure justement sur ce problème, cette question concernant les idéologies destructrices avec Jacques Carora.
Pour conclure cette émission, nous aimerions vous donner ici quelques conseils pratiques pour permettre à tous nos auditeurs, dirigeants et leaders d'opinion, citadins, agriculteurs et mères au foyer, ainsi que des enfants, de détecter et de résister aux groupes et aux manipulations de la haine et de la destruction. Par le biais des reportages que nous avons suivis et par les explications du professeur, nous avons vu qu'en période d'insécurité, de pauvreté et d'instabilité politique, le fait de se renfermer dans des groupes fermés et l'incapacité de profiter des expériences et succès d'autrui n'est pas profitable à l'ensemble des Congolais. Pour savoir ce que signifie le repli identitaire, il suffit de regarder l'Afghanistan des talibans, les soldats d'Ahmed Tourabi ou l'Irak de Saddam Hussein. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'on a constamment invoqué l'identité des uns et des autres pour masquer des échecs de tout ordre. Aujourd'hui, tous ces pays pleurent des milliers de morts, de blessés et de traumatisés. lorsque la société est en panne, lorsque l'insécurité et la méfiance règnent, il est crucial de contredire et de s'opposer aux discours et aux idées identitaires qui sont des obstacles au développement, car souvent ces discours accusent des gens plutôt.
Merci beaucoup, Jacques Carora. Alors, professeur Okumba, l'important est de savoir que l'autre n'est pas toujours une menace, mais aussi une chance. Le Kinois qui vit au Bas-Congo, l'étranger qui vit au Bas-Congo, qui vient d'une autre province, mais aussi l'étranger qui vient d'un autre pays, n'est pas une menace, mais également une chance. Il faut l'accepter.
Absolument. Il faut l'accepter. Et je pense que le développement de la plupart des provinces résulte de l'action conjuguée des originaires et de ceux qui viennent d'ailleurs. Les seuls originaires ne peuvent pas développer des provinces. Il faut compter avec les autres. Non seulement des Congolais qui viennent des autres provinces, mais également des Africains, des Européens qui viennent. Nous devons travailler dans la diversité. Pour moi, la fortune, la richesse, le développement, c'est la diversité.
Merci beaucoup, professeur Okumba, d'avoir été des nôtres dans cette chronique consacrée à l'ONG Benevolentia. On vous retrouvera, si tout va bien, prochainement, pour un autre sujet.
Merci. C'est moi qui vous remercie également.